Je voudrais vous remercier, Nicole, de m'avoir invité, et l'ARP également, dans la mesure où, à la différence de l'Assemblée éminente, je ne suis rien. Je n'appartiens à aucun réseau de recherche pédagogique. Je ne suis pas associé à un UFM. Je suis un enseignant de base et mon voisin dirait peut-être même le prototype de l'enseignant archaïque, au sens où je maîtrise formal, je ne suis pas formé à PowerPoint. Et j'ai demandé un rétroprojecteur, mais mon éminent voisin m'a fait remarquer que mon plan est sûrement trop petit pour être visible de cette salle que je n'imaginais pas aussi belle. Donc je ne sais pas si c'était utile, et je compte sur Pascal, par contre, pour les croquis à la fin de mon exposé, qui eux sont effectivement donc sur Excel. Alors pourquoi quelle légitimité puis-je avoir donc à me saisir comme cela de l'Europe ? J'ai enseigné pendant 18 ans en classe préparatoire HEC, la terminologie qui était employée, et j'ai enseigné pendant 18 ans une géohistoire institutionnelle, qui était au fond l'histoire de la construction européenne, qui était surtout une histoire, je dirais, institutionnelle et économique, et qui ne posait pas de difficultés sémantiques. En tout cas, qui ne posait pas d'interrogation sémantique particulière. À partir de 2005, nous avons eu un changement de programme. Et désormais, nous avons étudié une géodynamique continentale et une géopolitique de l'Europe. Et cette fois-ci se pose d'entrée le problème de l'identité européenne ou de la définition de l'objet géohistorique au cœur des problématisations géopolitiques. J'ai dû m'y intéresser de manière plus précise, puisque un éditeur m'a demandé de coordonner une série de manuels destinés aux classes préparatoires, dont un sur la géopolitique de l'Europe, pour lequel je suis également intervenu comme auteur. Et puis je me suis donc également intéressé à la question de savoir, bon, le public que j'avais, c'est donc d'étudiants en classe préparatoire, sur quel enseignement je pouvais m'appuyer, sur quel substrat de connaissances je pouvais m'appuyer, puisque à la différence des autres continents qu'on avait étudiés, il me semblait que l'Europe était peut-être le continent sur lequel leur formation était la plus développée. Donc du coup, je suis allé en béotien, et je vais présenter effectivement un propos qui est sûrement celui de quelqu'un qui a découvert les choses de manière assez récente. Regardez ce que sont les programmes, la manière dont l'Europe est enseignée, et essayer de comprendre au fond la confusion dans laquelle se trouvent mes étudiants avant mon enseignement, mais aussi, je vous rassure, après mon enseignement. Alors j'ai commencé d'abord par m'interroger effectivement sur, au fond, la crise identitaire et la crise pédagogique que nous traversons. C'est le premier point. Il me semble effectivement qu'il y a à la fois une crise identitaire dont François Digi donc parlait tout à l'heure, mais aussi une crise qui est une crise donc de type pédagogique. Et je me demande en fait si la crise de la pédagogie de l'Europe n'est pas en fait liée à ce que Ulrich Beck appelle au fond une faiblesse de la dimension narrative de l'européanisation. Alors, de ce point de vue, il me semble que le débat référendaire de 2005, qui a fait appel à un corps électoral qui, majoritairement, il y a moins de 50 ans, est un corps électoral qui est né, qui a grandi, qui a été instruit dans la construction européenne, a révélé une période qui a été une période, au contraire, d'exaltation et d'un débat intense sur la question européenne, et qui a été, à mon avis, un des moments les plus actifs et les plus riches de notre vie démocratique, mais qui portait, je dirais, essentiellement sur le traité en lui-même, sur son essence, sur sa dimension démocratique supranationale, qui était trop pour les uns, pas assez pour les autres, en tous les cas, insatisfaisant pour tous. Et dans ce débat référendaire, on a assisté au fond à une radicalisation des oppositions entre anti-européens et partisans de l'avancée de la construction européenne, avec bien sûr bien d'autres enjeux qui sont venus se greffer sur ce débat, libéralisme versus économie socialisée, nationalisme versus fédéralisme, partisans d'élargissement versus adversaires de l'entrée de la Turquie dans l'Union, etc. Mais il me semblait que, au fond, dans ce débat, il y avait un défaut, au fond, de pédagogie, de l'Europe. Il n'y avait pas de discussion sur comment le principe même de constitution s'inscrivait dans une mutation de la nature de ce que j'appelle, je vous expliquerai ensuite pourquoi, l'européisme. Quel sens par rapport au traité antérieur, quel changement induisait le projet constitutionnel dans la nature de l'identité européenne? Ces questions-là ne sont pas ressorties du débat, et il me semblait que de ce point de vue, il y avait au fond un silence assourdissant des pédagogues de l'Europe dans cette période-là. Donc une crise qui a d'abord été une crise pédagogique de ce point de vue. Mais cette crise est aussi une crise en raison de la difficulté de définition de l'identité européenne. Et pour clarifier mon propos, partirai au fond du principe que la polysémie de l'identité européenne, elle peut reposer au fond sur trois dimensions tout à fait différentes. Et je m'appuierai bien sûr de ce point de vue à la fois sur les travaux de Robert Frank et ceux de Jacques Lévy, qui ont apporté des éclairages donc très très nets. Les historiens se sont effectivement interrogés de manière ancienne sur le sens de l'identité européenne. Et Jacques Lévy, Robert Frank fait référence à Julien Binda, à son discours à la Nation européenne de 1933, où il distingue une identité européenne, c'est-à-dire des traits communs de culture, il distingue une identité européenne par opposition à des traits communs de culture qui constituent selon lui une identicité. Et cette identité européenne, ou sentiment d'appartenance et de conscience d'être européen, c'est au fond ce que Jacques Lévy qualifie, lui, en géographe, d'européanité. Et on peut effectivement distinguer cette européanité de ce que j'appellerais l'européisme, qui relève, lui, d'une volonté de construire une identité politique de l'Europe. Et bien évidemment, quand je parle de crise identitaire, il est évident que c'est une crise d'abord et surtout de l'européisme, et non pas, je dirais, de l'européanité donc en tant que telle. Voilà. Le troisième point au fond, cette crise, c'est une crise qui a révélé l'absence d'historicité de l'objet Europe. Il n'y avait dans la discussion, notamment sur la question constitutionnelle, aucune réflexion sur l'historicité de l'objet géographique Europe, et l'Europe apparaît comme un fait acquis, une évidence indiscutable et non discutée en tant que telle. Alors c'est très net, par exemple, sur la question de la relation entre le projet constitutionnel et aujourd'hui le traité institutionnel, le traité donc de Lisbonne, où au fond on n'inscrit pas la question de ces traités par rapport à l'héritage des traités antérieurs, par rapport au traité d'Amsterdam ou au traité de Nice, alors même que au fond la réalité et le fonctionnement de ces traités rendait nécessaire le recours effectivement à une réforme. Le deuxième élément dans cette historicité, c'est que, au fond, la réalité de l'Europe est exclue du débat parce qu'elle est tenue pour une identité pérenne. Comme si l'Europe s'inscrivait dans une permanence, une réalité définitive, au fond, une réalité ahistorique. Les changements internes et externes à l'Europe, depuis sa création politique dans le cadre de l'européisme, n'apparaissent que comme des péripéties. Et finalement, on pose aujourd'hui la crise référendaire de 2005 comme une péripétie équivalente à une succession de crises qui ont fait la construction européenne, telles que la crise de 1965-66 ou celle de la crise de 79 à 84. Et donc il me semblait là nécessaire que, au fond, les pédagogues fassent entendre leur voix sur cette nécessité de recontextualiser le concept d'Europe à travers effectivement un concept qui soit un concept historique. Et ce phénomène est un phénomène qui me paraît premier de manière très récente. Je crois que s'il y a crise d'identité européenne, c'est une crise identitaire récente et que je daterais au fond de la période des années 1992-1994. Il me semble que avant cette date-là, on ne peut pas parler de crise de l'identité européenne. Alors pourquoi y a-t-il effectivement un changement ce sentiment de crise de l'appartenance donc à l'Europe, et se fait à mon avis dans un quadruple processus. D'abord parce que 92-94, ça correspond à la transformation des conditions intérieures de la politique européenne, avec finalement le traité de Maastricht, l'application du traité de Maastricht, qui est l'achèvement du marché commun et de ce que fut le projet européen depuis son origine, dans la manière dont il est pensé et dans la manière dont il a fonctionné. Finalement, Maastricht, ça marque la fin de la logique du spillover. Et à partir de là, elle a nécessité une redéfinition du projet européen, donc un changement de nature de l'identité de la construction européenne. L'Union européenne, donc née en 92, a-t-elle vocation à être l'Europe ? Et cette interrogation, elle me semble effectivement tout à fait contemporaine de la réalisation de l'Union économique et monétaire. Le deuxième processus dans lequel s'inscrit cette crise identitaire et qui est donc contemporain, c'est bien sûr la fin de la bipolarisation. La fin de la bipolarisation qui, en décomposant les limites idéologiques de l'Europe occidentale, renforce cette remise en question de ce qui faisait jusqu'alors l'identité européenne. L'identité communautaire. Et le sommet européen de Copenhague en 1993, en stipulant les conditionnalités d'élargissement de la future Union, traduit politiquement cette interrogation. Le troisième processus, c'est celui de la mondialisation. Et l'apparition, avec la mondialisation, au fond, de nouveaux conflits, de nouveaux enjeux, de nouveaux acteurs. Finalement, la modification de l'horizon des acteurs européens. Qui, du même coup, là, pèse sur la manière de se penser européen à l'échelle mondiale. Enfin, le dernier facteur, c'est bien sûr, et je ferai référence cette fois-ci à Zlatan Todorov, qui le dit dans le nouveau désordre mondial, c'est la pression de la guerre en janvier 2003 qui peut apparaître effectivement comme un dernier élément de cette prise de conscience de la crise identitaire et de la crise des solidarités transatlantiques qui structurait cette Europe donc jusqu'alors, à travers bien sûr la formulation d'opposition entre une jeune et vieille Europe. Et Tsvetan Todorov souligne que, soudain, sous la pression des événements, la guerre, l'identité européenne est devenue l'objet d'un débat commun. Donc on a effectivement un quadruple changement de contexte qui amène effectivement cette double interrogation à la fin du XXe siècle sur l'identité européenne. Changement de nature de la construction européenne. De l'Europe, au fond, pensée comme une méthode ou une idée, à une Europe pensée désormais comme une puissance, avec un point d'interrogation. Et puis, par l'effet de la mondialisation, la question de savoir si l'intégration européenne, finalement, n'est pas déjà un horizon dépassé. Alors, à cette double interrogation se concentre généralement, s'exprime très fortement, notamment sur la question des limites de l'Europe, qui effectivement est une question qui agite énormément donc le débat au moins médiatique. Donc sur ce constat, au fond, le premier constat de la crise identitaire et de la crise pédagogique, se greffe un deuxième constat, qui est celui de la crise de l'enseignement de l'Europe, sur laquelle donc je me suis penché, je vous le disais donc tout à l'heure en introduction, de manière récente, et où je pense là-dessus à avoir encore beaucoup à apprendre. Simplement regarder au fond ce qu'étaient les programmes d'enseignement, quelle place avait donc l'Europe dans les programmes d'enseignement, c'est-à-dire essentiellement pour le collège et le lycée, donc dans les programmes de 97, et les programmes de 2002. Et j'observe de ce point de vue, je fais 6 observations sur la manière dont l'Europe est enseignée à partir, je dis bien à partir uniquement des textes officiels et des textes d'application. En aucun cas, je n'ai eu le temps, bien évidemment, de m'intéresser ni aux pratiques des collègues, ni même, bien sûr, à ce que les éditeurs ont produit en termes de manuels. Et je sais pour autant que, souvent, il y a une conception beaucoup plus cohérente et beaucoup plus intelligente du programme par les collègues que, effectivement, les programmes ne peuvent le laisser penser. Néanmoins, je ferai 6 constats. Premier constat, bien évidemment, c'est un objet qui est tronçonné entre champs disciplinaires et niveaux d'enseignement. Bon, c'est une évidence, mais globalement, ça se découpe comment ? À l'histoire et je dirais donc à l'éducation civique, l'idée de l'unité européenne, et à la géographie, espace et territoire européen. De manière, donc, je dirais relativement traditionnelle. Deuxième constat, c'est une approche qui est une approche éclatée. Approche éclatée, et on a finalement une absence de logique dans l'organisation des programmes entre histoire de la dynamique européenne et géographie d'un espace européen. L'articulation est redoutable et complexe. Au final, entre une articulation où finalement l'Europe apparaît au collège en classe de 5e, 4e et 3e, elle apparaît en histoire, en géographie et en instruction civique. Et au lycée, elle apparaît en première, en terminale, en histoire et en géographie. Alors ce qui me frappe dans ce processus, enfin dans la manière dont c'est organisé, dans cette approche éclatée, c'est que l'objet géographique, Europe et Union européenne, est toujours étudié, c'est-à-dire en classe de quatrième et en classe de première, un an avant l'analyse du processus historique dont il est le produit, hein, qui sont étudiés en classe de troisième et terminale. Ainsi, par exemple, dans le commentaire du programme de géographie de quatrième, je lis « Les élèves doivent être capables de comprendre les grandes fractures encore vives de la mosaïque européenne. » Sauf que, a priori, les fractures historiques du XXe siècle ne sont étudiées qu'en classe troisième. De même, dans la géographie donc de la classe de première, le sens de la communauté, la question du débat qui doit être posé donc d'une manière préalable à l'étude de l'Europe, eh bien ce sens-là ne peut être compris qu'à partir de l'étude historique qui sera abordée en classe de terminale. Et il me semble que en termes de territoire, le territoire ne peut être analysé que si on identifie la nature de la communauté dont il est le produit. D'où effectivement cette inversion logique du programme qui est vue de l'extérieur, donc un peu surprenante. L'autre élément dans cette approche éclatée, c'est que au fond, on a dans l'ensemble de ces programmes un seul programme, qui introduit une césure dans l'historicité de l'Europe. C'est le programme de terminale. C'est le programme de terminale en histoire qui est le seul qui, soulignant dans le commentaire du programme, après plus de 40 ans de stabilité, la question des frontières et des territoires devient brûlante, pose effectivement la césure entre une Europe avant 1989 et une Europe après 1989. Or cela, effectivement, les élèves le découvrent, je dirais, au moment, terminal de leur scolarité, donc secondaire. Enfin, l'éducation civique. L'éducation civique, donc en classe de quatrième, donc droit de l'homme et l'Europe, des valeurs communes, identité nationale, citoyenneté européenne. Là, je dois avouer que j'ai été très surpris en lisant effectivement ce programme et en me rendant compte que, au fond, les exigences du programme étaient d'étudier un discours de Churchill de 46 sur les Nations Unies d'Europe et donc deux articles de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, alors que le contexte historique dans lequel sont posés effectivement ces textes ne seront étudiés éventuellement en classe de troisième. Et donc je suppose que mes collègues prennent beaucoup de plaisir à enseigner donc cela dans ces conditions-là. Et par ailleurs, ce qui me frappe, c'est que, de ce point de vue, en termes d'instruction civique sur la question de la démocratie européenne, eh bien la démocratie européenne et le fonctionnement de la démocratie européenne, elle n'apparaît nulle part dans aucun programme, ni du collège, ni du lycée. Troisième remarque, c'est bien sûr sur la question de l'Europe un flou sémantique. Un flou sémantique sur l'imprécision du concept civilisationnel que sous-tend l'Europe. Ainsi, le programme de 5e en histoire pose d'abord la chrétienté occidentale, puis l'Europe à la découverte du monde. On a donc une simultanéité d'emploi entre la chrétienté occidentale, donc l'Occident, et l'Europe, sans qu'il y ait effectivement de corrélation entre ces deux concepts dans le programme de 5e. Dans les programmes d'histoire de la classe de 4e et de 1e, finalement, l'Europe apparaît comme simplement un cadre d'études historiques, à géométrie d'ailleurs variable. L'Europe est implicitement amalgamée aux puissances qui la composent. Et on s'arrête là. Quatrième remarque, c'est bien sûr un objet qui est un objet incertain. Un objet incertain, en géographie, l'objet d'étude n'est jamais discuté, sauf à titre d'introduction du programme de géographie de première, où là, effectivement, il est posé en tant que tel. Et donc, l'identité européenne, en géographie, elle est toujours posée comme un état et jamais comme une dynamique. La définition de l'Europe en 57, la définition de l'Europe en 1991, en 2007, ne peuvent pas être des définitions identiques, à l'évidence. On ne peut pas enseigner l'Europe, me semble-t-il, comme un objet pérenne ou permanent. Il y a là une nécessité, effectivement, d'historiser donc le concept. En classe de 3e en géographie, autre exemple effectivement d'un objet incertain, le programme stipule, revient sur l'Europe dans l'Union européenne comme puissance économique majeure. Et le commentaire insiste sur une addition de nations au poids, à l'influence et au rayonnement très inégaux. L'Europe a presque tous les éléments de la puissance économique, culturelle, monétaire, il lui manque le stratégique. Commentaire donc des programmes du collège donc publié au CNDP en 99. Et là, je dois avouer ma très grande perplexité. L'idée que la puissance de l'Union relèverait de l'addition des nations semble oublier qu'en termes de puissance, l'addition a plutôt une valeur négative, de rétraction par effet des rivalités liées au nombre. Et d'autre part, limiter la définition de la puissance à ses fondements, fût-il économiques, sans effectivement prendre en compte ni les modes d'affirmation, ni le dessin de puissance, semble effectivement être contradictoire avec le concept même de puissance. C'est-à-dire que la puissance n'existe pas en soi. Elle suppose un projet préalable qui repose tout au moins sur une identité collective. Et je ne vois pas effectivement comment on peut arriver effectivement à enseigner la puissance européenne sans prendre en compte d'abord le problème effectivement de l'identité européenne et du projet éventuel d'une puissance européenne qui est à tout le moins qui est nécessaire à tout le moins donc de discuter. Dans cet objet incertain, je relèverai également que finalement le concept de l'Europe continentale et celui d'une Europe de construction politique sont toujours juxtaposés sans jamais être interrogés. L'Europe continentale est posée comme une notion permanente et éternelle dans laquelle les programmes demandent d'insister sur la diversité, soit, mais jamais sur l'identité en tant que telle. Et globalement, alors peut-être effectivement que c'est à contre-courant de ce que M. Hugoni donc évoquait tout à l'heure, mais l'Europe finalement, dans les programmes, reste un cadre continental d'études nationales. Et j'ai pas le sentiment que la place d'études nationales ait été très largement minorée dans ces programmes par rapport effectivement à la question européenne. Globalement, au final, sur cet objet, je dirais, incertain, cette quatrième remarque, eh bien, l'Europe est conçue dans les programmes plus comme un espace que, globalement, comme un territoire. Cinquième remarque, je passerai rapidement donc sur ce point. Je crois que globalement, même si je suis un enseignant de géopolitique tout récent, je dirais qu'il est frappant de noter que l'approche géopolitique dans les programmes est une approche qui est très mal assurée et qu'on reste prisonnier dans l'enseignement de l'Europe d'une géoéconomie et d'une histoire économique globalement dominante. Enfin, dernière remarque, global, il me semble, en lisant donc les programmes, qu'il y a, d'ailleurs de manière explicite, un renoncement à une approche épistémologique de l'objet d'enseignement. Commentaire du programme d'instruction civique de la classe de 4e, je lis « L'Europe, dont l'identité demeure imprécise, s'est forgée un patrimoine commun ». Alors certes, le patrimoine commun peut être étudié grâce au programme d'histoire de 5e et de 4e, mais la formulation du commentaire révèle en soi un renoncement à toute approche épistémologique donc de l'Europe. Alors comment dépasser la crise, ou comment, dans mon modeste enseignement, j'essaie effectivement de redonner à l'enseignement de l'Europe une dimension narrative pour replacer quelques éléments stables, dirons-nous, en termes d'enseignement. Premier point, dans la dernière partie de l'exposé, cette dimension narrative, il me semble qu'il faut effectivement donc construire l'objet de l'Europe sur une clarification sémantique. Europanité, européisme, espace et territoire doivent être clairement distingués pour qu'on puisse effectivement savoir de quelle identité européenne on parle. Et globalement, je dirais que à la question de la civilisation européenne, une réflexion sur l'espace de l'européanité, c'est-à-dire pas d'inscription territoriale. Il existe une européanité qui peut être une européanité post-européenne ou extra-européenne. Pas de limites, pas de frontières en tant que telles, mais bien évidemment, comme Jacques Lévy le souligne, un gradient d'européanité, des marges d'européanité liée à une influence plus ou moins longue, dont Jacques Lévy souligne bien sûr que le noyau, si le noyau est relativement facile à identifier, ses marges sont délicates, bien évidemment, à situer. À l'inverse, lorsqu'on parle effectivement de l'européisme, de la construction politique, eh bien, il s'agit là de raisonner en termes de territoire de l'européisme. Territoire européen de la construction politique. Territoire européen au pluriel, de l'influence de la puissance européenne, c'est-à-dire effectivement ce qui peut relever à la fois des vestiges ou des marges d'une influence ou d'une domination européenne. Et donc, je dirais que de ce point de vue, l'affirmation de l'Europe comme aire d'influence, si l'on veut raisonner en termes de puissance, suppose effectivement d'employer un terme pluriel sur les territoires de l'Europe, en réfléchissant bien sûr à une Europe outre-mer ou à cette Europe des politiques de voisinage, de la politique de voisinage telle qu'elle est effectivement stipulée donc par l'Union européenne donc depuis 2004. Et du même coup, il est évident que la question des limites de l'Europe, telle qu'elle est posée d'un point de vue médiatique et politique, est une fausse question. Est une fausse question, parce que, au fond, pourquoi chercher à délimiter d'un point de vue territorial l'Union européenne en voulant faire coïncider les limites de l'européisme à une limite de l'européanité? Et de ce point de vue, il y a toute une littérature, donc qui est une littérature sur les frontières spatiales de l'européanité, qu'on retrouve bien sûr chez Samuel Huntington ou chez Philippe Nemo, qui a en fond repris le point de vue de Huntington dans un petit ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?», où au fond ils établissent une frontière de cette civilisation ou cette européanité, ce qui me semble être de ce point de vue une confusion certaine. Alors à partir de là, le deuxième point effectivement sur cette dimension narrative, c'est arriver à au fond structurer l'enseignement autour de l'historicité des concepts d'Europe. Historicité des concepts d'Europe, c'est-à-dire poser l'identité de l'Europe en fonction de la manière dont elle est perçue et pensée. Un exercice que Philippe Pelletier, qui est ancienne dans l'université voisine, qualifierait de métagéographie. C'est un terme qu'il affectionne particulièrement, de cette représentation au fond de l'Europe, et pour laquelle je vous proposais des croquis de représentation. Avant de passer aux croquis, le premier point de cette historicité, c'est ce qui relève au fond de la genèse de l'européanité et le fait que, au fond, c'est un peu l'Occident avant l'Europe. L'Occident avant l'Europe, c'est-à-dire que les représentations liées à la genèse d'un Occident européen posent bien sûr le problème de la multiplicité des dimensions spatiales de l'européanité. La notion d'Europe est utilisée à l'origine de manière totalement métonymique à celle d'Occident. Lorsqu'on reprend le célèbre triptyque de Paul Valéry, il y a Europe là où les influences de Rome sur l'administration, de la Grèce sur la pensée, du christianisme sur la vie intérieure se font sentir tous les trois, relève d'une métonymie parfaite entre les notions d'Europe et celles d'Occident. hein, de ce point de vue. Et la morphogénèse de l'Occident européen repose en fait sur une archéologie, hein, d'apports civilisationnels successifs, sur lesquels les historiens ont très largement défini effectivement ces différentes strates, presque donc archéologiques. Mais la difficulté de ce point de vue, c'est que, au fond, cette Europe, notion civilisationnelle, je dirais instrumentalisée, pose un problème qui est un problème effectivement spatial, parce que l'européanité, comme espace de civilisation, a connu un processus qui est un processus de dilatation géographique. Un double processus de dilatation géographique de l'Occident. D'abord, avec la dilatation de l'espace européen liée à l'affaiblissement de l'Empire ottoman, hein, qui, au fond, a abouti à un doublement, au fond, de l'espace européen avec la réintégration, hein, de la vieille chrétienté orientale, d'une part, et puis bien évidemment la question qui est que vous évoquiez tout à l'heure dans le tour de table, hein, qui est celle bien sûr de la question de la découverte du Nouveau Monde et la naissance d'un hémisphère occidental, exportation des cultures de la chrétienté occidentale, et à ce moment-là la notion d'Occident s'affranchissant, hein, bien sûr, de celle de l'Europe, hein, dans une genèse d'une civilisation occidentale hors l'Europe, et qui deviendra même le centre, je dirais, géopolitique de l'Occident, au détriment de l'Europe, hein, ce que Jan Patočka qualifiait système post-européen. Alors, à partir effectivement de ce premier héritage, le deuxième élément, la deuxième représentation, c'est celle, au fond, d'une Europe qui est celle de la représentation de la guerre froide. Voilà, c'est le premier... non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, représentation, alors je ne sais pas si c'est visible, oui, à peu près, ouais, moyen. Donc, représentation donc de cette Europe au fond de la guerre froide. Hein, quelle métagéographie. C'est un moment où, en bleu, hein, l'Europe se définit par rapport au projet de construction politique européen, c'est-à-dire c'est la naissance de l'européisme, hein, de fait. L'affirmation de l'intégration européenne, les processus d'élargissement, d'approfondissement conduisent progressivement à amalgamer l'Europe à la CE, Union européenne. Cette représentation donc a une dimension essentiellement géopolitique qui est celle de l'Europe occidentale à ce moment-là. Et elle pose bien sûr un problème immédiat, qui est celui de la pluralité des représentations à partir du moment où s'effondrent les représentations issues de la conception donc bipolaire du monde. L'élément qui me paraît important, c'est que cette représentation est une représentation historiquement stable et très solide, hein, puisque elle dure, hein, pendant 40 ans. Elle dure pendant 40 ans et du même coup, elle reste encore présente dans les représentations autour de ce que j'appelle l'alpha et l'oméga de cette représentation, qui sont une césure, alors que sur ce document que j'ai oublié de tracer, hein, qui sont une césure donc entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, une césure idéologique, mais aussi... une césure qui est une césure entre une Europe septentrionale et une Europe méridionale, et qui reprend l'opposition entre un centre industriel développé et des marges européennes, rurales, de moindre développement, l'opposition entre, au fond, l'Europe de la révolution industrielle et une autre Europe en marge de la révolution industrielle. Et cette donc deuxième représentation, elle reste aussi... Elle est effectivement très forte, y compris dans les politiques européennes, hein, puisqu'elle marque, à partir du rapport Thomson en 1913, elle marque effectivement la logique, hein, de la politique d'aménagement du territoire européen sur cette opposition entre un centre et une Europe donc périphérique. Le troisième constat de cette représentation, c'est une Europe qui est bien sûr une Europe qui reste bien sûr sous l'aile américaine. Sous l'aile américaine, c'est le concept, au fond, d'un axe rhénan, hein, né d'une réconciliation donc franco-allemande, au fond, du rôle de la France et de l'Allemagne dans une construction homogénéisante et unificatrice donc de l'Europe. Cette représentation, elle est bouleversée, bien évidemment, à partir de 1989. Deuxième schéma. Alors j'ai effectivement basé cette représentation de l'Europe à partir donc de la date de 1994, hein, puisqu'elle correspond à la fois à ce qu'on appelle le papier Lamers, hein, du nom du ministre des Affaires donc étrangères, donc du chancelier Kohl, et à partir d'une déclaration du Premier ministre français Édouard Balladur, et reprise par dans différentes déclarations par son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Et il pose à ce moment-là non plus cette Europe sur un axe, je dirais, d'alpha et d'oméga, donc politique et économique, mais une Europe des trois cercles. Une Europe des trois cercles, une Europe basée sur, au fond, un premier cercle, qui est celui donc du noyau dur ou de la solidarité, de la coopération renforcée. Un deuxième cercle, qui est celui de l'Union européenne, hein, des pays moins engagés dans les politiques communes, pratiquant l'opting out ou le choix de retrait, donc dans certains cas comme celui du Danemark ou du Royaume-Uni, donc des États dont l'implication dans la construction commune est moindre ou partielle. Et puis un troisième cercle qui est celui des États extérieurs, partenaires et pouvant accéder à la construction communautaire. Alors c'est une représentation qui est débarrassée de la bipolarisation, c'est celle du continent retrouvé, hein, de fait, et c'est en même temps une représentation qui est révélatrice d'un temps de crise, hein, d'un temps de crise parce que elle renvoie aux difficultés économiques, à la récession, à la remise en cause de la pensée unique, aux difficultés, aux oppositions au traité de Maastricht, à l'euroscepticisme, hein, qui est effectivement dominant dans certains États, au nom danois à la première ratification du traité de Maastricht, aux crises monétaires, à la crise yougoslave, qui effectivement nécessite un recentrage donc sur un centre politique de l'Europe. Néanmoins, elle est révélatrice d'une prise de conscience de l'Europe comme aire de puissance. Comme aire de puissance, hein, puisque désormais, c'est un projet qui se définit comme une aire de puissance attractive et influente. C'est désormais donc un centre et qui dessine par là même des gradients d'influence ou territoires, hein, au pluriel, donc européens. C'est une représentation européano-centrée, hein, bien évidemment, et qui est au fond débarrassée de sa dimension occidentale. Au sens idéologico-géographique, hein, qui était celui de la guerre froide. Mais en revanche, c'est une représentation qui n'a pas abandonné l'oméga de la césure économique précédente, au contraire qui le renforce, puisque la césure entre le premier cercle et le deuxième cercle de Lamers ou d'Alain Juppé, c'est la césure entre l'Europe industrielle et développée, l'Europe démocrate chrétienne, l'Europe des pays historiquement fondateurs, hein, de l'européisme et les autres. Et donc c'est une vision qui est une vision qui renforce au fond cette dichotomie historique dans les représentations européennes. C'est aussi une vision, il faut le dire très clairement, monétariste, hein, de l'Europe, hein, puisque elle reprend l'opposition entre les pays qui étaient dits à l'époque in et les pays out, hein, ceux qui effectivement répondaient aux critères de convergence et ceux qui ne pouvaient pas y répondre en raison notamment de leur moindre niveau, hein, de développement économique. Donc elle reprend finalement, à une exception près, la césure entre les fondateurs historiques de l'européisme et les États qui en ont finalement bénéficié de manière plus tardive. C'est une représentation de l'Europe qui, enfin, se détourne du Sud. Alors je l'ai oublié de le préciser dans le schéma précédent. Voilà. J'ai oublié effectivement de parler l'Europe donc du Sud, de l'Europe méditerranéenne, qui était à ce moment-là présente notamment dans la question des relations conflictuelles avec les puissances colonisatrices dans la période effectivement de cette période donc de guerre froide. Alors dans la période qui est celle de l'après-guerre froide, l'Europe et l'européisme se tournent vers l'Est au détriment du Sud. Et la relation avec la rive sud de la Méditerranée apparaît désormais effacée au profit de l'Europe orientale. C'est enfin une représentation qui abandonne l'idéal d'une vision communautaire unificatrice et homogénéisante. Hein, puisque finalement, on a un exercice délicat de consensus et qui est donc réservé à quelques États centraux au détriment des États périphériques. Alors, bien évidemment, c'est une vision qui a été immédiatement rejetée. pour l'ensemble de ces raisons, qui a provoqué un tollé parmi les pays européens qui se voyaient effectivement placés dans le deuxième cercle, et notamment bien sûr un des États fondateurs de l'européisme, l'Italie, et qui a expliqué le rejet de cette représentation. Or pourtant, cette représentation, elle perdure aussi aujourd'hui sur effectivement les perceptions que nous pouvons avoir de l'Europe. Donc le troisième et dernier les États-Unis, voilà. Le troisième et dernier représentation, qui est au fond l'Europe de 2007, vue de l'Union européenne. Alors là, on a une Europe dont l'intégration s'est faite de manière plus rapide que prévu, en 2004 et 2007, et qui est une Europe qui reprend, en quelque sorte, cette idée d'Europe à plusieurs vitesses, mais sur une architecture tout à fait différente, puisqu'elle est basée sur des coopérations renforcées multiples. J'ai représenté là envers les États qui relèvent donc de l'Europe de Schengen, et du même coup entre l'Euroland en rouge, l'Europe de Schengen en verte, et bien sûr donc l'Union européenne en bleu, on a une Europe qui est une Europe à géométrie variable et qui est du même coup beaucoup plus difficile à identifier en tant que telle, mais qui finalement n'est pas si éloignée que cela de la représentation des cercles concentriques. Dans cette Europe, dans cette nouvelle Europe, on a un voisinage élargi qui, bien sûr, pose la question des frontières de l'Europe à l'est et au sud, qui pose donc très clairement la question de savoir si, au fond, les frontières de l'européisme doivent être calquées sur celles des représentations de l'européanité. Et bien sûr, quelle européanité ? Quelle aire d'influence ou de rayonnement de la puissance européenne ? Et la vocation des territoires européens à intégrer, donc qui relève de l'européanité, à intégrer l'Union européenne, est donc clairement posée. Et cela renvoie bien sûr au problème, au fond, de la définition d'une politique étrangère de l'Union européenne, qui doit être redéfinie dans ses objectifs comme dans ses moyens. C'est ce que souligne Jean-Dominique Giuliani, qui préside donc la Fondation Robert Schuman, dans l'État de l'Union 2007, le rapport Schuman sous la direction de Michel Fouché et de Thierry Chopin, lorsqu'il dit « L'Union doit être l'animateur d'une région du monde multipolaire et non une organisation régionale à laquelle tout le monde adhère par obligation ». Donc la question de savoir si effectivement il y a une vocation des États, au fond, relevant de l'européanité, à intégrer à terme donc l'Union européenne. Alors cette orientation n'est pas la seule. Je crois qu'effectivement il y a d'autres orientations possibles donc de l'Europe. Et par jeu, j'ai simplement opposé au fond ce qui pourrait être, et là c'est le dernier, merci beaucoup, la dernière représentation, et qui pourrait être la représentation de l'Europe de 2007 vue des États-Unis. Alors, vue des États-Unis, c'est-à-dire une représentation qui reste une représentation structurée institutionnellement par la guerre froide et par la représentation de la guerre froide. C'est-à-dire que les grands systèmes de représentation américains reposent sur qui est membre de l'OECE. En 1948, j'ai représenté en vert, qui est membre de l'OTAN depuis 1949, qui est membre de l'OSCE depuis 1975. Et globalement, les changements intervenus n'ont pas modifié donc ces systèmes institutionnels et ces formes de représentation. On voit effectivement que l'ensemble des pays issus de la CEI demeurent bien évidemment au sein donc de l'OSCE. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision de l'Europe américanisée, en tous les cas avec une prégnance de l'influence américaine, il y a eu une inversion des priorités des États-Unis entre la stratégie économique et la stratégie militaire et politique. Au XXe siècle, la coopération économique se fait toujours avant la protection militaire. C'est-à-dire que les États intègrent d'abord l'OSCE et l'OCDE avant d'intégrer l'OTAN. Voilà pourquoi j'ai indiqué en rouge d'abord et en bleu la deuxième date d'intégration, 1949-1955, pour la RFA par exemple. Alors qu'à partir du XXIe siècle, la protection militaire se fait avant la coopération économique. La Croatie, ainsi, devrait rentrer dans l'OTAN, normalement, dans les semaines qui viennent. Le sommet de l'OTAN d'avril prochain devrait effectivement le mentionner. La Géorgie est candidate donc à l'entrée dans l'OTAN avant hein, que vraisemblablement la Russie, la Croatie, Israël et le Chili n'intègrent donc l'OCDE. C'est au moins l'hypothèse qui est pour l'instant donc retenue. Enfin, dans cette vision américaine, il est évident que la confusion demeure entre l'Europe et l'Occident, hein, de manière totale, puisque à travers effectivement l'OCDE et la présence au sein de l'OCDE de pays, hein, donc qui à terme avec le Chili par exemple sont des pays qui sont hors, hein, donc d'une européanité, eh bien on a effectivement une dimension première qui est celle d'une représentation occidentale. Alors, si je peux conclure. Oui. Sur cette effectivement ce bilan de effectivement de cet aperçu, il me semble effectivement nécessaire d'avoir une approche qui demeure une approche transdisciplinaire de l'objet Europe, hein, et donc essentiellement pour l'histoire, la géographie et l'instruction donc civique, de poser l'Europe comme un objet scientifique historisé. Et au fond, on peut très bien enseigner une géographie de l'Europe, mais qui est une géographie inscrite dans un temps défini, dans un contexte particulier, et non pas effectivement comme un objet pérenne. Et bien sûr, dans cette même optique, distinguer définitivement ce qui relève de l'européanité, de l'européisme, hein, du désir de puissance également, donc ce qui relève d'une différenciation entre espace, territoire et territoire au pluriel. Et il me semble, mais je pense que visiblement je dois être totalement archaïque et à contresens, mais que de ce point de vue, logiquement, il me paraîtrait plus simple d'étudier l'Europe comme un aboutissement d'une progression pédagogique, c'est-à-dire de les placer en fin de cycle, aussi bien d'un point de vue en étude, en histoire qu'en géographie, en classe de troisième et en classe de terminale, mais c'est, je dirais, la réflexion d'un enseignant de terrain. Merci.